Bienvenue à la French Connection. Cette semaine, nous allons faire un épisode spécial sur le threat hunting avec Patrick.
Hey, salut tout le monde.
Donc, comme c'est un épisode spécial, nous allons commencer directement dans le vif du sujet. Le threat hunting étant relativement la dernière chose à la mode. C'est une espèce de façon d'exploiter de façon super active ce qu'un SOC a mis en place. Donc, Patrick.
Yes, en fait, récemment, ça, je donnais une formation, fait que le sujet m'est venu à l'idée de parler de ça. Puis, avant d'embarquer dans le vif du sujet, parce que comme tu viens de dire, le threat hunting est quelque chose de super cool, quand même utile, mais vraiment qui arrive loin dans la chaîne de Security Operations Center, là, notre SOC. Puis, on va avoir dans les show notes une petite image ou un lien vers la vidéo de Microsoft qui démontre la pyramide de la sécurité, si on peut dire, qui est toutes les étapes pour mettre en place dans un SOC pour arriver, dans le fond, de la base vers jusqu'à une équipe super pointue qui va faire de la recherche, détecter des choses, jusqu'à les traquer, là, et voire même faire de l'attribution, presque, de qui fait une attaque présentement et d'agir sur ça. Mais le point principal, qu'on parle, puis là, on se met un peu dans le contexte très Québec, mais je suis pas mal sûr qu'en Europe aussi, là, pour le monde qui nous écoute, ça doit être quand même similaire. Le premier point à mettre en place, là, qu'on va parler de mettre un SOC, c'est d'avoir un inventaire. Donc, de savoir qu'est-ce qu'on a sur notre réseau, où est-ce que tout ça est. Je veux dire, dans le sens physique, là, parce qu'on s'est souvent fait demander de faire des scans de vulnérabilité en tant que consultant pour des raisons un peu bizarres, puis finalement tu te rends compte qu'il n'y avait pas d'inventaire, puis le scan, il voulait juste quelqu'un qui le fasse à leur place pour avoir un inventaire. Finalement, tu te retrouves avec des Windows 98 qui datent de 10 ans et plus sur le réseau, et ils n'ont aucune idée d'un qui avait ça en place, et de deux, ils sont où dans la bâtisse. Donc, on part de loin. Tout ça pour dire que la plupart des organisations n'ont pas d'inventaire complet efficace, qui se met à jour, automatisé, etc. Et ça, c'est le premier élément à mettre en place là, pour faire du SOC.
Pour... Mais la visibilité, c'est... De toute façon, la visibilité, c'est le nerf de la guerre. Là. Fait que si tu n'as pas de visibilité, tu es comme nulle part. Là.
C'est ça, parce que le but de ça, c'est faire de la détection. Donc, de détecter des attaques, des menaces et autres sur ton infrastructure à toi. Mais si tu n'as aucune idée c'est quoi ton infrastructure, c'est dur un peu de savoir où c'est chercher tes informations, ou obtenir des logs quand tu n'as pas de logs qui proviennent de des systèmes que tu ne connais pas. Donc, les étapes suivantes sont la télémétrie, donc justement la mise en place des logs. Basé sur ça, tu veux faire de la détection, donc des alertes, la corrélation et tout là, avec les SIEM, pour finalement détecter une attaque, un problème ou autre, qui va aller dans ta file d'attente, dans ton système d'étiquette, peu importe comment vous êtes organisé, pour que ton employé aux opérations, là, le Security Operation, puisse faire du triage et décider quoi faire avec l'attaque en cours. Si vous êtes en entreprise, gouvernement ou privé, vous avez sûrement vu et généralement vu la partie log, télémétrie et détection. Mais rarement l'inventaire et rarement faire du triage, savoir quoi faire avec le niveau d'impact, etc. Donc, on se rend compte un peu que les choses ne sont pas toutes en place, souvent mauvaisement mises en place. Et là, comme tu dis, ben, y a la nouvelle tendance de dire hey, « on va faire du threat hunting, c'est super cool » parce que tout le monde du côté offense font du red team. Il n'y a personne qui fait du red team au Québec, je suis désolé de vous l'apprendre. Mais le hunting, c'est encore trois étapes plus loin que le triage. Et pour ça, avant ça, après le triage, il faut parler de menaces et de votre risque d'entreprise, là, votre threat model, votre modèle de risque, et savoir, justement, basé sur le tri, qu'est-ce qu'on fait avec le risque en cours. Après ça, on va monter et on va voir c'est quoi qui se passe au niveau de l'attaque, le behavior, pour voir sur quel système ça touche, qu'est-ce qu'il faut mettre à jour, c'est quoi les risques, etc. Là, c'est pour l'analyse de Security Ops se fasse pour justement détecter les attaques qui sont en cours et pouvoir éventuellement aller faire du threat hunting, qui est le point un peu plus avancé de analyser. Il y a comme deux parties. Il y en a une qui est d'analyser l'attaque qui a été détectée, puis l'autre est de toujours faire de la recherche sur le réseau pour trouver des attaques en cours. Mais là, comme on vient de dire, le 30 secondes, le trois quarts des entreprises n'ont pas d'inventaire. Ils ont des logs qui fonctionnent plus ou moins, de la détection qui est rarement automatisée, peu de triage, peu de threat, peu de behavior. Puis là, on voudrait faire du threat hunting. Je pense pas qu'on est rendu là vraiment, là, personnellement. Je sais pas ce que tu en penses, Nick, là, mais...
Non, ben, de toute façon, ça prend un niveau de maturité très, très élevé pour faire du threat hunting. C'est pas, en tout cas, plus que juste d'installer un CM puis de regarder des logs. Ça demande une connaissance active des choses. Puis dans le fond, un peu la différence entre un vulgaire SIEM et du threat hunting, la différence, c'est que le SIEM, bon, on va te fournir la base. Là, c'est tu vas commencer à chercher de façon très active dans ton SIEM et ton inventaire et voir tout coup où tu découvres des comportements marginaux qui potentiellement peuvent mener à croire qu'il y aurait peut-être eu une compromission, il y a peut-être eu des problèmes à l'intérieur de l'organisation.
Mais ça veut dire que techniquement, tu es habitué avec ton SIEM, de deux, tu sais ce qui est normal, tu sais ce qui n'est pas normal dans ton réseau, fait que tu es capable de faire la différence rapidement, et tu as quand même énormément d'automatisation, de corrélation puis d'alertage basé sur des trucs qui font du sens. Puis quand je dis qu'ils font du sens, c'est pas de mettre un SIEM en place puis d'utiliser les packages qui existent pour faire du plug and play et recevoir 50 millions d'alertes. Le but, c'est de mettre une alerte à la fois, la tester, faire du red team dessus, la retester, etc. Ça prend des années de faire ça. C'est pas une question de jour. Je me souviens plus c'était quel gouvernement ou entreprise que une personne avait dit ça il y a quelques mois. Ils voulaient mettre en place un SOC pour faire de la détection, de l'alertage, etc. Puis son projet était de 3 mois. Mais j'étais comme, ben oublie ça, là, je veux dire. 3 mois, c'est le temps que ton équipe technique comprenne le logiciel puis l'installe presque.
Il y a des optimistes dans ce monde.
Oh, oui, autant que l'inverse, il y a des projets de 3 ans pour faire un log. Tu sais, il est comme le juste milieu, là. Je veux dire, 3 mois, tu fais l'installation, tu fais ta preuve de concept, fine, mais il n'y a rien qui marche encore. Tu n'as pas de processus, tu n'as pas d'équipe, tu n'as pas d'organigramme qui va avec, tu n'as pas d'incident response. Le processus qui va avec, etc. Là. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de choses à faire. Mais encore là, on est encore à la télémétrie puis à la détection. Si on a un inventaire là, dans les 3 premiers niveaux de la pyramide. Donc, je pense qu'on est très loin au Québec. Je sais qu'il y a quelques entreprises qui font ça, mais généralement, ils ont des centaines et des centaines d'employés en sécurité. On ne parle pas d'une organisation qui a une équipe de sécurité de 5-6 personnes, ou même voire une quinzaine. Mettre ça en place, c'est lourd, c'est long. Puis, un des points qui manque énormément, qu'on entend très peu parler ici au Québec, je ne sais pas si tu as vu ça de ton bord, toi, Nick, mais dès qu'on sort de la province, le concept de security engineers, un développeur en sécurité, c'est manquant ici. Puis, c'est ce qui fait qu'un bon SOC peut faire énormément la différence si tu as des développeurs qui codent tes alertes, qui vont faire tes choses. Parce que, comme je disais, les logiciels que tu fais du plug and play, d'un, c'est pas très bon. Mais de deux, ils connaissent pas le contexte de ton organisation. Il faut que tu le configures, que tu codes des choses. Tu sais, il faut que tu l'ajustes. Puis je vois ça partout, mais pas ici.
Moi, je l'ai vu à certains endroits. Pas beaucoup, mais je l'ai vu où justement, ils ont des développeurs qui prennent part de façon active au développement et au déploiement de genre d'outils qui sont dans un SOC ou dans un SOC-ish. Qu'est-ce qui peut ressembler plus ou moins à ce genre d'infrastructure-là? Fait que oui, mais c'est fondamental parce que si tu as besoin d'un effort de développement, peu importe, puis tu sais,
c'est plus de la config que du dev. On est comme dans un mode très architecture versus très développement, très open source, mettons. Là.
Ouais, ben, c'est ça, parce que là, si j'ai eu d'énormes conversations, juste pour parler du SIEM, là, juste à la base.
Ouais.
Et certaines compagnies vont se targuer d'avoir des solutions clés en main qui vont arriver. Ah oui, moi, je t'installe ça dans ton entreprise, puis tu ponges tout. Et on en voit souvent des choses comme ça, puis c'est même les solutions les plus commerciales, les meilleures. Et tu disais, ça exige connaissance du contexte. Sécurité.
Oui, c'est pas que le logiciel est pas bon, c'est que faire du plug and play sur les alertes, la détection et tout, oui, tu vas catcher plein de logiciels malveillants. Mais après avoir catché des logiciels malveillants, tu veux faire plus, tu veux du behavior, tu veux quelque chose qui fait du sens pour le contexte de ton organisation. Tu sais, si tu bloques les comptes après 3 faux logins, puis que ton package est à 5, s'il n'est pas configuré pour ton environnement, ça marche pas, là.
Il y a ça, entre autres, mais c'est ça, la sécurité, c'est excessivement contextuel, fait qu'il n'y a aucune boîte magique qui va être capable de faire quoi que ce soit. C'est toujours la personnalisation. Puis là, on n'aura peut-être pas de faire ce genre de comparaison-là, mais c'est comme de prendre deux titans de la journalisation. Tu as Elasticsearch, qui est plus dans le monde de l'open source, puis tu as Splunk, qui est l'équivalent dans le produit commercial. Splunk a l'avantage d'être beaucoup moins... De façon beaucoup plus facile l'installation, beaucoup plus facile l'opération, mais ça n'empêche pas qu'il y a énormément de développement maison et de personnalisation contextualisée qui doivent être faites avec Splunk, même si c'est le produit a des beaux packages déjà tout préfaits.
Oui, exact. Mais c'est ça. Puis c'est sûr que quand on parle du domaine public, ben ce que j'ai rarement entendu parler, puisque comme tu as dit, oui, il y a quelques organisations là, qui ont des security engineers et autres. Mais d'avoir des devs temps plein qui font des logiciels de sécurité, qui adaptent les logiciels qui existent avec les API et autres pour rajouter du contexte, extrêmement rare. Puis je pense que c'est vers une des places qu'on devrait pousser plus au lieu d'avoir des tonnes d'architectes et de gouverneurs en haut. Là. C'est plate à dire, mais je pense que le focus devrait switcher vers ce sens-là. Là.
Ben, c'est sûr qu'on est mieux d'avoir des Indiens que d'avoir juste des chefs. Là. Tant qu'à moi, les architectes et les gouvernateurs sont des chefs dans ce contexte-là. Fait que, oui, on a besoin de beaucoup de gens, puis même des ingénieurs qui vont être capables d'opérer des sondes, capables d'opérer des équipements. C'est pas donné à tout le monde. C'est un skill très particulier et qui, ma foi, très manquant parce que pour une raison obscure, parce que du moins au Québec, je ne sais pas ailleurs, mais il y a comme un prestige de devenir un architecte. Quand dans les faits, le prestige est l'opérateur dans le SOC qui, lui, est dans le feu de l'action. Là, puis c'est carrément une autre chose. Malheureusement, on ne valorise
pas ça. Puis c'est vrai que c'est un contexte totalement différent. Tu sais, aux États-Unis, quand tu prends les gros joueurs à la Google, Facebook et autres, les gros noms, si on veut regarder les sites de recherche d'emploi et autres, c'est tout au niveau du coding. C'est ceux-là qui font la job puis qui connaissent comment ça fonctionne. Il y a très peu de postes de dire hey, « je suis architecte chez Google ». Il y en a, là, mais je veux dire, justement, ils ne sont pas 50. Là. Il y en a un en haut. Et après ça, tu as toute la gang qui le met en place en dessous. Je sais que ça se redirige un petit peu plus comme ça au Québec, mais il manque encore ce petit point-là. Et tout ça pour dire que, oui, il faut mettre tout l'inventaire, la télémétrie, la détection, etc. en place. Puis après ça, on parlera de Red Team puis de Threat Hunting, etc. Parce que le Threat Hunting, c'est pour rattraper une attaque live ou retracer une attaque qui a déjà été commise, faire du tracking et autres. Puis comme j'ai dit rapidement, du Red Team au Québec, à l'interne, tu as une ou deux organisations qui font ça. Puis s'ils commencent à faire ça, tu sais, c'est zéro mature. Puis des compagnies de consultation qui font du Red Team au Québec, même s'il y en a 5-6 qui vous disent qu'ils font ça, c'est pas ça qu'ils font. Ils font simplement des pen tests ouverts avec toutes les adresses IP possibles, etc.
Pour le bénéfice de nos auditeurs, parce qu'il y a peut-être une catégorie qui n'ont pas tout à fait au fait de qu'est-ce qu'un. La différence entre du Red Team et du pen test, parce que.
Tout à fait. Bon point.
Il y a une confusion entre les deux, là.
En fait, il y a une méga confusion partout, en fait. Là, partout où je passe, la plupart des personnes, peu importe leur niveau de connaissance en sécurité, il y a une confusion qui est mise. Puis malheureusement, elle est poussée par les vendeurs de plusieurs entreprises que eux, peu importe, ils vont utiliser le nom qui est cool. Mais quand on parle de pentest, généralement, ça va se diviser en plusieurs. Là, tu vas commencer par ce qui n'est pas un pentest, un scan de vulnérabilité. mais qui est juste une scan pour voir les ports qui sont ouverts, si tu es vulnérable ou non. Après ça, tu as du security assessment. Tu vas analyser pour trouver des bugs. Après, on tombe dans le pentest, qui est de tester l'impact. C'est de faire une intrusion, un test d'intrusion pour voir jusqu'où tu peux aller. Donc, quand on a un appel d'offre qui est un test d'intrusion qui ne doit pas être intrusif, on appelle ça un scan de vulnérabilité. Malheureusement, il y en a beaucoup de ça. Puis l'autre point, bien, c'est qu'un pentest, c'est comme je dis, c'est le but de faire une intrusion. Le but n'est pas de trouver tous les bugs possibles. Ça, c'est un assessment. Je ne sais pas comment on peut vraiment bien dire en français, mais c'est vraiment d'analyser tous les risques pour trouver tous les bugs. Puis après ça, on parle de red team puis de red versus blue. Le red versus blue, généralement, bien, c'est le red team qui s'assoit avec l'équipe de sécurité, les bleus, puis qui vont tester l'équipement de sécurité informatique. Puis ça, je parlais que je donnais une formation récemment. Puis une de mes questions qui est toujours drôle à poser, c'est vous achetez, vous déployez des logiciels de sécurité à l'intérieur de vos organisations. Les avez-vous déjà testés? Nick, as-tu déjà vu des organisations qui testent leur outil de sécurité?
Tester dans quelle perspective tester? Tester la sécurité de l'outil lui-même ou...
Si l'outil fonctionne, en fait.
Ah, s'il fait ce qu'il a à faire?
Oui. Puis le point de base, c'était, vous avez acheté un antivirus, il est supposé de détecter A, B, C, D. Avez-vous déjà testé si A, B, C, D a déjà été détecté par votre antivirus? Puis j'ai rarement eu un oui à cette question-là.
Ouais, c'est un fait amusant parce que
ouais.
Dans les appels d'offres, pour moi, dans l'univers, moi, je suis plus familier. Les bancs d'essai qui ont été exigés sont des bancs d'essai de conformité par rapport aux grilles d'appels d'offres. Mais en aucun cas, on va valider là, de l'antivirus. Je trouve ça très intéressant.
J'ai jamais
vu de test qui valide si l'antivirus fonctionne comme il devrait fonctionner ou comme il est attendu qu'il fonctionne selon les critères d'appel d'offres.
Oui, parce que je me suis fait répondre exactement ce que tu as dit. Oui, on l'a testé à l'appel d'offres, on a fait une preuve de concept. Ça veut dire que tu as à peu près 6 mois, 1 an, je ne sais pas combien de niveaux avant la mise en prod. Puis malheureusement, j'ai déjà fait justement un red versus blue, qu'on était assis avec une organisation, puis on testait tous les outils de hacking, de malware et autres, un après l'autre. Puis le premier, c'était Mimikatz. Tu prends Mimikatz, tu le copies sur le Windows, l'antivirus est supposé le voir pour l'enlever. Oui, évidemment, ça fait ça, etc. Ben, tu vois, j'avais le même antivirus que l'organisation sur mon poste. Je le copie sur mon poste, ça disparaît en quarantaine, je ne peux pas rien faire. Je copie ça sur l'ordi de notre client. Aucune détection, aucune alerte, rien. Mais c'est un antivirus, ça marche, hein? Évidemment, personne n'a testé ça, fait que c'est ça, ça marche. S'il y a le mot sécurité dedans. Mais non, c'est ça l'affaire. Parce que tu as de la config, tu as un environnement qui est différent, tu peux avoir des bugs qui relient à plein de choses. Puis tu vois, ce client-là, ils ont fallu qu'ils appellent la compagnie, faire venir les spécialistes sur place pour trouver la raison. Puis ça leur a pris plus qu'un mois de trouver pourquoi. Puis je n'étais plus là à ce moment-là, là, mais ça ne fonctionnait pas. Puis c'était déployé sur 5000 postes et plus. Tu sais.
Ouais, dans le cas de Mimika, c'était un peu gênant de la cassette compagnie d'antivirus-là.
Quand même, oui. Puis ça peut être niaiseux comme il y a un bouton à quelque part qui dit on ne veut pas tester des trucs de base ou je ne sais pas. Tu sais, il y a plusieurs configs là, dans des antivirus parce que ce n'est plus juste des antivirus. Là. Mais ça reste que tu vas acheter un antivirus, tu vas acheter un truc qui détecte les malwares, tu vas acheter un truc de SEIM pour les logs, whatever. Tu mets ça en place, mais parce que c'est un truc de sécurité, personne ne le teste en prod. Fait que le red versus blue, ben c'est ça le concept, c'est que tu testes des attaques versus ton infra de sécurité pour voir si ton SOC fonctionne comme il faut. Puis ça, ben c'est la partie justement qui est dans la deuxième partie du triangle là, de Microsoft, de Threat Behavior puis le Hunt, qui est justement, tu essaies de détecter ce que ton red team va faire. La première étape, ben d'un, c'est de tester ton infra de sécurité. Quand ça, c'est fait, bien, c'est de passer au mode là, plus invisible. Si on peut dire, tu as un red team qui fait une opération, qui veut aller attaquer les risques de ton entreprise, les business risks. Ça, c'est un red team. Si vous recevez un red team d'une entreprise puis ils n'ont pas le concept de threat model, ils ne parlent pas de vos risques de business, c'est un pentest. Parce qu'en fait, un red team, Au lieu d'avoir un scope, une portée comme un pentest, de dire « veuillez attaquer le site web abc.com », c'est l'inverse, c'est un no scope, une non portée. Ça dit « essaye d'attaquer le business risk suivant ». Donc, si le truc qui est le plus à risque chez vous, c'est votre liste de clients, mais le red team, c'est de voler la liste de clients. C'est comme ça que ça fonctionne. Et la portée, la non-portée, bien, c'est ce que tu n'as pas le droit de faire. Généralement, c'est genre, tu n'as pas le droit de démolir la porte parce que tu peux y aller physiquement. Tu n'as pas le droit de te sauver avec le serveur qui a les listes de clients dessus. C'est des concepts de ce type-là. Donc, généralement, quand on parle de red team au Québec, c'est un pentest que tu as le droit de tout faire. Dans le sens que tu vas tester l'attaque pour faire une intrusion, puis il n'y a pas vraiment de limite sur le nombre de IP, mais ça n'attaque pas un risque de business. C'est pas le CEO qui a dit « veuillez tester telle affaire ». Tu sais. Puis ça fait une grosse différence parce qu'un red team peut coûter des 200-300 000, puis un pentest, des 10 000. Fait que si quelqu'un devait un pentest à 300 000, puis l'autre à côté est à 10 000, puis la même chose, ça fait une méga différence.
Oui, mais ça, tu payes. C'est toujours ce que tu payes. Là. Ça, c'est clair. Ça, il faudrait que les gens s'enlèvent l'illusion que parce qu'il y a un super prix, ils ont tout ce qu'ils ont demandé de l'intérieur.
Ouais,
encore là. C'est-à-dire, essentiellement, tu dis que faudrait que dans ce contexte de pet hunting-là, puis de red team, c'est-à-dire que, disons, une organisation X achète un antivirus, garoche l'antivirus, puis. Dont le red team viendrait le brasser jusqu'à temps qu'il atteigne ses limites puis de voir
jusqu'à. Oui, exact. Dans le sens qu'on parle de red versus blue, que ce soit ensemble, mais le red team va dire, bon, justement, Mimikatz, si on le met, il se détecte, oui. Après ça, tu l'encodes. Après ça, tu changes les bytes pour voir si la signature, tu peux la bypasser. Puis tu continues comme ça, tu vas l'encrypter, tu vas faire toutes les étapes, un après l'autre. On n'est pas vraiment rendu là, ici au Québec. Puis après ça, bien, le Red Team, eux, bien, ils sont actifs tout le temps contre le business risk. Puis ils vont essayer de trouver des attaques dans l'organisation, des manières d'atteindre la partie sensible de l'organisation que par défaut, personne n'aurait pensé à utiliser. Parce que ce n'est pas juste sur l'Internet, là, c'est via le social, le phishing, le téléphone, le physique. Tu peux tout combiner ensemble. C'est ce qui fait que les vrais attaquants, ceux-là qui veulent vraiment vous avoir, ben, eux, ils ne se limitent pas juste à votre site web.com. Là. Ils vont tout faire pour y arriver. C'est un peu ça que le Red Team veut faire.
Wow, ça sert à simuler un vrai attaquant. Puis justement, comme tu dis, un vrai attaquant s'en sac un peu de.
Il n'y a pas de règles.
La politesse, la politique interne, ce genre de choses-là, ils s'en sac, là, mais royalement.
C'est comme dans les conférences qu'on a données à certaines fois que tu utilisais l'image du genre du gars qui court sur l'eau. C'est ça, il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'heure fixe. Si ça, il tente de prendre un an pour vous hacker, il va prendre un an, tu sais. Et toi, tu es pogné avec ta politique et ton 9 à 5. Fait. C'est la grosse différence.
Il y a ça, entre autres. Puis justement, les mouvements latéraux puis les mouvements lents sont très, très difficiles à voir. Sur un concept, là, sur les trois premiers de base, même les quatre premiers paliers, tu ne te rapproches jamais de mouvements lents ou de mouvements latéraux. Moindrement complexe, faut vraiment.
Non, c'est dur parce que faire de la détection de quelque chose qui est à long terme sans machine learning, c'est extrêmement complexe. Il faut que tu sois chanceux. Puis même avec du machine learning, il faut que tes données d'analyse soient sur déjà plusieurs années. Il faut que tu génères des trucs énormément d'avance. Fait que tu ne peux pas faire un plug and play puis dire oh, je connais ton environnement, tout fonctionne. Il faut que tu fasses rouler ça longtemps, tu sais. Puis là, tu vas voir un petit point qui sort de ta moyenne, de ta tangente. Puis là, c'est peut-être quelque chose à long terme. Puis le nombre de chances que c'est un faux positif, ben, est très possible.
Ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est là l'importance d'avoir une équipe robuste puis des gens qui connaissent bien l'organisation, justement pour un peu pallier le manque ou l'incapacité d'automatiser un certain nombre de choses ou de ramener des choses-là. Fait que ces gens-là sont capables d'être suffisamment imaginatif comme le Red Team puis de trouver des scénarios possibles et d'interroger les bases de journalisation pour savoir s'il y a eu un mouvement qui sort des limites normales d'utilisation.
Oui, exact. Fait que tu as le côté automatisation des alertes, de la détection, puis de l'autre bord, ben oui, tu as tous tes logs, faire la recherche dedans, puis retracer tout ce qui s'est passé. Puis pour avoir tout ça en place, bien évidemment, il faut un système qui est très automatisé. J'avais déjà été, il y a vraiment plusieurs années, dans un certain ministère où ce que le SEIM ou whatever, la partie de détection, il y avait une personne qui s'en occupait. Puis quand j'avais vu c'était quoi le système, je pense qu'il passait à peu près 100 000 lignes de log dans l'écran en moins de 30 secondes. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? D'un, ça donne rien. De deux, oui, c'est cool, là, dans un film peut-être. Mais t'es supposé avoir des alertes qui font du sens basées sur ton contexte, pas qui te génèrent des millions de trucs, qui te génèrent quelque chose qui fait du sens à analyser, évidemment.
Ouais, ben c'est un peu le rôle de l'analyste en sécurité, c'est de justement commencer à coder des alarmes, à coder des filtres, à coder des choses ajoutent de la valeur à l'information. Puis pour les différents déploiements de SIEM que j'ai fait, souvent en amont, tu vas même enrichir tes données avant même qu'ils tombent dans ton SIEM, justement pour faciliter ta vie en cours de chemin, par exemple. Donc, tu vas mettre des pays sur les...
Tu vas mettre du GeoIP. Tu mets plus de méta dessus. Là.
Tu vas enrichir de beaucoup, beaucoup de méta avant d'arriver dans le SIEM. Puis, quand il arrive dans le SIEM, ben tout ton... Tu as déjà une forme de pré-analyse qui est faite. Ensuite, c'est facile de savoir, OK, sans moi, tu les IP qui sort par pays. Fait que là, tu vas faire des répartitions. Tu vas être capable de voir le outlier, celui qui... Et pas se poser. Cet enrichissement-là vient t'aider. Puis, tous les mécanismes de recherche, comme tu dis, tout le développement en amont, tout ce qui doit être fait pour traiter cette information-là de façon à ce qu'elle soit utile. Parce que c'est des aides à la décision, mais sur un humain, c'est comme essayer de boire à la bonne fontaine. Oublie ça. Là, tu vois, juste comme
ouais, exact. Si tu as quelqu'un de nouveau dans ton équipe, ben, il ne connaît pas l'environnement. Fait que déjà là, tu te tires dans le pied si tu ne fais pas ça de la bonne manière. Puis c'est ça, si on finit avec vraiment le threat hunting, ben le but de ça, c'est d'avoir, comme on a dit, toute la détection en place, puis rendu là, c'est d'avoir le système pour faire l'analyse, mais d'interrelier ça à ton processus de gestion des incidents, à ton incident response. Parce qu'il faut que tu saches quoi faire avec ce que tu détectes, puis il faut que tu aies aussi les capacités, ben, les talents, les personnes qui sont ultra techniques pour retracer des malwares out. Fait qu'on ne parle pas d'une équipe de une ou deux personnes. Généralement, tu sais, ton SOC va être déjà une dizaine. Puis là, tu vas avoir du monde encore plus technique qui font de la recherche live. Donc, c'est très avancé comme niveau de maturité.
Ouais, j'ai vu dans les organisations, j'ai vu qu'ils étaient rendus pratiquement à ce niveau-là. Généralement, ils vont faire du reverse engineering sur le code trouvé. Là, on va loin, là, mais c'est juste pour faire une blague à ça, c'est juste activer sysmon. C'est déjà un élément de base très important que la plupart des organisations ne font même pas maintenant.
Oui, exact. Tu sais, une des attaques les plus utilisées en environnement Windows, c'est les attaques sur l'OD avec Mimikatz. Puis l'autre, bien, c'est les malwares qui utilisent PowerShell. Combien d'organisations qui détectent du PowerShell dans leur event log de Windows? On peut les compter sûrement sur les doigts de la main au Québec. Si c'est plate, mais juste en détectant les deux codes de event log pour le PowerShell, vous bloquez tellement d'attaques que juste ce quick win-là peut vous bloquer, je ne sais pas le pourcentage de malware, mais tellement gros que c'est déjà un grand succès de dire on va juste attaquer ce qui est très prioritaire. On mettra dans les show notes là, les matrices du MITRE ATT&CK qui pointent vers tous les trucs à détecter dans votre SOC. Le PowerShell est là, mais il y en a à peu près une centaine d'autres. Fait que le but dans votre SOC, c'est de les mettre un après l'autre, plus après ça, les environnements, pas les environnements, mais les comportements contextualisés dans votre entreprise. Mais généralement, si PowerShell n'est pas là, les autres qui sont super avancés que personne ne connaît sont sûrement pas là non plus.
Ouais, c'est ça. Mais effectivement, la matrice du MITRE est tout à fait excellente parce qu'il vient de structurer la réflexion de ce côté-là puis nous aide comme des organisations à mettre les efforts aux bonnes places. Mais le PowerShell, c'est malheureusement un vecteur d'attaque très puissant puis la plupart des organisations les autorisent. Et autorisent même les PowerShell non signés, fait que minimalement, si on peut signer PowerShell, c'est déjà une étape en avant, mais...
Oui, exact. Puis, tu sais,
c'est puissant, ce PowerShell.
À part vos devs, peut-être les personnes en sécurité, personne dans l'organisation a techniquement besoin de PowerShell. Fait que vous pouvez configurer ça pour que ça soit bloqué. Même pas besoin des logs dessus, là, tu peux juste le bloquer. Puis loguer le reste, évidemment. Là. Mais c'est ça, tu sais, quand on parle de ces types d'attaques-là, ce qui est souvent la problématique dans la mise en place des SOC, c'est que les priorités sont plus technologiques versus les risques de l'entreprise. Tu sais, le focus est rarement mis à la bonne place. Puis ben, c'est un peu pour ça qu'on voulait parler de cet épisode-là, pour commencer à discuter de la mise en place des SOC, puis qu'on est vraiment loin et pas très rendu à faire de la super live threat hunting contre des red teams.
Pour moi, je trouve ça un peu malheureux parce que c'est une chose que je trouve assez sexy de faire du threat hunting. Quoique je ne suis pas un expert là-dedans. Mais
le team aussi, là, c'est un contre l'autre. Là, ouais.
Ouais, c'est un jeu puis ça rajoute du plaisir dans le travail au lieu d'être juste monotone et à passer des logs et trouver des affaires. Là,
non, comme... exact. Parce que un des contextes concept super le fun, c'est de faire de la gamification alentour de ça. Tu sais, ton red team te bat, ils font un point, t'es bloqué, tu fais un point. Tu fais ça une fois par mois, par année, whatever. Ça peut créer un environnement super le fun. Puis en plus, ben, t'apprends. Puis là, on pourra en faire un autre épisode là-dessus. Mais c'est vraiment intéressant comme approche.
C'est beaucoup plus dynamique. Puis dans le fond, ça favorise l'excellence chez les gens parce qu'on a un goût de se dépasser justement par en gagnant des points. Puis c'est un peu l'effet de la gamification là, qui est très. Parce que moi, je suis très sensible à la gamification. Fait que je comprends. J'imagine que ça dépend des secteurs, mais dans certains secteurs, je le suis énormément. Fait que j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de gens aussi qui.
Ah oui, oui. Puis tu sais, j'ai fait certains mandats que l'équipe de sécurité, quand je me plantais ou qu'ils me détectaient, le boss m'écrivait pour rire de. Ben, pas rire de moi, mais tu sais, pour m'écœurer. Puis disait que c'était lui qui avait le point cette journée-là. Hein. Tu sais, ça rend les choses plus intéressantes.
Ouais, ça rajoute la dynamique, c'est ça. C'est au lieu d'être juste assis dans son bureau puis à regarder un écran puis à devenir végétatif, au moins t'as un genre de jeu qui s'installe puis une espèce de recherche continue puis de choses à voir ce qui se passe. Je pense que ça complète vraiment le sujet pour cette fois-ci.
Yes, tout à fait. Puis n'hésitez pas à nous poser des questions sur ce sujet-là sur notre Twitter. Puis on se fait un autre épisode pour parler plus de la deuxième. Du deuxième level, le Red Team versus les Blue Team. Ça serait super intéressant.
Ouais, ben, on va approfondir. Puis c'est sur Twitter, Facebook, toutes les plateformes, courriel, on a plein de plateformes que communiquer. Posez vos questions, ça va orienter le sujet, puis orienter le sujet dans une direction qui va peut-être être plus conforme à vos attentes. Donc, sur ce, on vous souhaite une bonne semaine.
Et à la prochaine. Merci tout le monde.